Des lumières bleues qui éclairent cette année le prix Nobel de physique, un anthropologue spécialiste des terroristes kamikazes, le grand débarquement de Google dans nos autos, la découverte d'origine géographique du sida et un incubateur de science à Vaux-en-Velin. Ce sont les sujets qui sont au cœur de notre club des Têtes au Carré ce vendredi. Je reçois pour en parler Scott Attran, Jean-Luc Péloir, Franck Cazenave. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue. Christine Siméon viendra nous rejoindre en fin d'émission. Puis nous serons également en ligne avec Éric Delaporte qui est chercheur à l'IRD de Montpellier. Scott Attran, vous êtes donc anthropologue et psychologue, spécialiste des terroristes kamikazes depuis plusieurs années. Vous étudiez le profil psychologique et les raisons qui poussent des hommes et des femmes à prendre les armes ou à donner leur vie pour une cause. Vous nous expliquerez comment vous travaillez sur un tel sujet et qui sont ces personnes qui sont enrôlées dans le djihad, par exemple au Moyen-Orient. Vous publiez un article en ligne aujourd'hui dans le magazine Cerveau et Psycho. La semaine des prix Nobel vient de s'achever. Du côté de la physique, ce sont les LED, les diodes électroluminescentes qui ont été récompensées. Jean-Luc Péloir, vous êtes physicien et vous allez nous expliquer tout le principe et les applications de cette lumière bleue. Alors que le salon de l'auto bat son plein à la porte de Versailles, le géant Google est en train de s'attaquer à nos voitures en espérant pouvoir monétiser nos déplacements. Franck Cazenave, vous êtes docteur en sciences de gestion, directeur marketing et innovation chez Bosch et vous publiez Stop Google aux éditions Pearson, un livre dans lequel vous expliquez la stratégie de Google autour de l'automobile. C'est très intéressant, vous allez nous expliquer tout ça dans quelques minutes. L'origine géographique du sida est désormais connue. Une étude publiée cette semaine dans Science révèle pour la première fois où et quand a commencé la pandémie. On en parlera avec le chercheur Éric Delaporte. Et puis il y a quelques jours a démarré à Vaux-en-Velin une nouvelle exposition planétarium. Christine Siméon nous présentera tout à l'heure ce voyage entre deux mondes, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Voilà pour les sujets de ce club des Têtes au Carré. Vous nous rejoignez bien sûr comme chaque semaine avec vos messages et vos questions. Franceinter.fr, les réseaux avec le hashtag l'attaque. C'est Violaine Ballet qui réalise cette émission préparée par François Mercier.
La Tête au Carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Vampire Weekend sur France Inter.
Salut.
La tête. Le club.
Open bar toute la nuit, ambiance de folie, toute sortie définitive.
Sur France Inter.
Se laisse réfléchir.
Dans la tête des terroristes, l'électroluminescence récompensée par un Nobel, les origines géographiques du sida, Google qui veut s'emparer de nos voitures et une nouvelle expo entre deux mondes à Vaux-en-Velin. Voilà donc pour les thèmes de notre club cet après-midi avec mes invités, l'anthropologue et psychologue Scott Attran, le physicien Jean-Luc Péloir, Franck Cazenave, directeur de marketing, Christine Simenon de France Inter qui sera avec nous dans quelques minutes et puis nous parlerons également donc des origines du sida avec le chercheur Éric Delporte. La semaine des prix Nobel, on commence avec ce sujet. Mardi, le prix Nobel de physique attribué à deux chercheurs japonais et à un américain pour leurs travaux sur la lumière bleue des diodes électroluminescentes, les fameuses LED. Jean-Luc Péloir, donc vous êtes physicien, vous travaillez en physique des dispositifs et vous êtes directeur de recherche au CNRS dans un laboratoire de photonique et de nanostructure. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce laboratoire ?
Personnellement, je travaille sur des structures qui sont plus petites que la longueur d'onde. Mmh. Et ça permet de confiner le champ électromagnétique, donc la lumière, sur des espaces extrêmement petits. Et donc d'avoir une interaction de la lumière avec la matière qui est exaltée.
Ce prix Nobel, il était attendu ? Ah. Ou ça a été une surprise ?
Est-ce qu'il était attendu ?
C'est une belle découverte,
en tout cas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'avaient prévu. Mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il rentre bien dans l'actualité. Le prix Nobel, il récompense, pour ces trois personnes-là, qui par parenthèse, toutes les trois, à l'époque, travaillaient au Japon. Mm-hmm. Donc la partie américaine est extrêmement faible, puisque le troisième a acquis la nationalité américaine bien après. Ils ont permis, par leur recherche croisée, de la réalisation de l'iode électroluminescente bleue qui était la brique manquante pour faire de l'éclairage blanc dont on a besoin. Mmh. Et c'est un impact, cette découverte, un impact sociétal énorme.
Et environnemental.
Et environnemental, tout à fait. Alors, sociétal, la dépense en énergie électrique pour l'éclairage, c'est 20%. Donc 20% de l'électricité consommée dans le monde sert à l'éclairage. Si on utilise des LED à la place des anciennes lampes d'Edison...
Donc ces fameuses lampes à basse consommation, hein, puisque c'est ça dont
voilà,
il s'agit pour les LED.
Exactement, basse consommation, parce que le rendement va être 10 fois plus grand. Et donc ces 20% vont s'écrouler, on va grosso modo avoir 18% d'économie sur la consommation électrique mondiale.
Oui.
Et donc là, évidemment, c'est une consommation, dans la transition énergétique, c'est quand même une brique fondamentale, parce que la meilleure énergie, c'est quand même celle qu'on ne dépense pas. Et puis aussi, eh bien, on va avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre.
Ouais, donc évidemment, ce prix Nobel arrive au bon moment. Il était temps, enfin c'est toujours le cas d'ailleurs des prix Nobel. C'est-à-dire que hier, on avait le médaillé Fields, là on récompense les jeunes de moins de 40 ans. Là, le Nobel, faut attendre quasiment la fin de carrière pour avoir ce prix, puisque les premiers travaux de ces chercheurs sur les LED remontent à la fin des années 80 à peu près, c'est ça ?
Alors, c'est leur résultat. Leurs travaux remontent aux années 80, oui, tout à fait.
Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé exactement, Jean-Luc Péloir ? Racontez-nous un peu quand même cette saga intéressante.
Alors, peut-être il faut commencer par raconter comment fonctionne une diode électroluminescente. Donc, on a trois mots, diode, électro et luminescente. Luminescent, on peut dire rapidement, on est dans un semi-conducteur. Le semi-conducteur, on peut le modéliser avec deux niveaux. Un niveau haut, où on va mettre un électron ou des électrons, et un niveau bas, en énergie, où on va mettre une absence d'électrons, donc on va appeler un trou. Mmh. Quand spatialement, l'électron et le trou sont au même endroit, eh bien, il peut y avoir une transition du niveau haut et du niveau bas. Et parce qu'on va conserver l'énergie totale du système, eh bien, cette transition va s'accompagner de l'émission d'un quantum d'énergie qui va être un photon, et dont l'énergie est égale exactement à la différence entre les deux niveaux. Ça, c'est électroluminescence. Maintenant, si on veut faire de l'électroluminescence, on va apporter les électrons et les trous au bon endroit avec un courant. Et pour ça, on est obligé de construire un dispositif qui va avoir une partie qui est un réservoir d'électrons qu'on va avoir appelé zone d'OPN dans notre jargon. Mmh. Et puis, de l'autre côté, un réservoir de trous où on a une absence d'électrons qu'on va appeler d'OPP, zone d'OPP. Et entre les deux, ça s'appelle la jonction. Et donc, on va pouvoir en mettant une tension aux bornes de ce dispositif, injecter les électrons vers la zone de trou, injecter les trous vers la zone d'électrons, et au centre, eh bien, ils vont se recombiner et mettre de la lumière.
C'est dommage parce qu'on n'a pas l'image, mais vous faites tout dans la gestuelle en même temps, pour lui faire comprendre, Jean-Luc Péloir, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils ont découvert alors exactement, voilà. Et donc, ces trois chercheurs, c'est quoi leur rapport?
Ça, c'était connu depuis très longtemps. La première découverte de l'électroluminescence, c'est 1907.
Oui, c'est ça, c'est début du XXe siècle.
Mais...
Il manquait quoi à l'époque?
Déjà, dès la découverte, on utilise un matériau qui n'est pas un semi-conducteur facile, c'était le carbure de silicium. Donc après, on comprend qu'il y a d'autres semi-conducteurs plus agréables à manipuler. En particulier, vous connaissez tous le silicium, mais aussi l'arsénure de gallium, par exemple. Mm-hmm. Et assez vite, c'est-à-dire dans les débuts des années 60, on va faire des diodes électroluminescentes rouges, puis vertes. Et donc, on a tout ce qu'il faut sauf pour faire le spectre visible, sauf le bleu. Et pourquoi le bleu ne sort pas aussi vite que les autres? Eh bien, parce qu'il utilise justement un de ces semi-conducteurs difficiles à fabriquer. Et on va voir plus tard que les Japonais vont utiliser le nitrure de gallium. Donc, qu'est-ce qu'ils ont apporté en définitive? Et ou quelle est la grande difficulté du nitrure de gallium? Eh bien, c'est qu'il n'existe pas de semi-conducteur de nitrure de gallium à l'état macroscopique, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir un cristal dans ma main de nitrure de gallium. Et ça, c'est la brique manquante, parce qu'habituellement, on prend un cristal macroscopique et on dépose des couches, les fameuses couches réservoirs électrons, réservoirs de trous dont je parlais tout à l'heure, sur ce cristal. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir d'un autre cristal qui va avoir une maille cristalline, donc le pavage des atomes différents, et forcément... Quand on va passer de l'un à l'autre, on va générer tout un tas de défauts. Le cristal ne sera pas parfait.
Et on leur doit cette paire manquante alors à ces chercheurs?
Absolument. Qu'est-ce qu'ils imaginent? Ils imaginent d'introduire une zone de transition avec des matériaux, disons deux matériaux. Ils vont faire un empilement, une sorte de millefeuille qui va à la fois faire une zone de transition pour changer la maille et en même temps piéger les défauts dans ce millefeuille. Ouais. Résultat, au-dessus, on a la couche active qui a une densité de défauts beaucoup plus faible. Et enfin, on va voir l'effet qu'on voulait, qui était l'émission de lumière.
Donc cette lumière bleue qui permet effectivement ce résultat. Alors c'est étonnant parce qu'on arrive en 2014, ils sont donc récompensés avec ce Nobel de physique, alors que cette lumière bleue, c'est LED, c'est déjà une réalité depuis très longtemps maintenant.
Absolument, puisque... Ça, c'est la première brique. Il y a une deuxième brique récompensée dans le Nobel, c'est le dopage P. On n'arrivait pas à faire une concentration de trous assez grande pour que ça émette beaucoup de lumière. Mm-hmm. Ça, c'est la contribution de Nukarama
la fin. C'est quoi ce dopage P, alors?
En deux mots, ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment il l'a trouvé. Il s'est aperçu que quand il regardait l'échantillon dans son microscope électronique, une fois sorti, il émettait plus de lumière qu'avant de rentrer. Il s'est rendu compte que le faisceau d'électrons cassait quelque chose à l'intérieur du cristal, qui était en fait une passivation due à la présence d'hydrogène.
Jean-Luc Péloir, les applications, justement, elles sont innombrables maintenant.
Ah, tout à fait.
Grâce à ces découvertes.
Alors, l'éclairage d'abord.
Chaque jour, voilà.
L'éclairage. Mais aussi, par exemple, on a devant nous des écrans plats. Oui. La plupart d'entre eux sont rétroéclairés à l'aide de LED.
Nos téléphones portables.
Téléphones portables. Vous êtes dans vos voitures. On a parlé d'achat de voiture il n'y a pas longtemps.
Évidemment. Les phares automobiles. Oui.
Voilà,
en LED, absolument. Et qui se déploient de plus en plus. Et en particulier parce qu'on peut éclairer certaines zones et même éteindre certaines LED pour éviter d'aveugler, par exemple, des voitures qui viennent à contresens.
Oui, tout à fait.
Donc, énormément d'applications, évidemment.
Énormément. Et il y a une autre application qui est importante, qui est une sœur, en quelque sorte, c'est les télécommunications à haut débit. La révolution, c'est de faire passer l'information dans des fibres optiques. On a besoin de sources de lumière. De même pour les lecteurs de DVD.
Voilà, donc quelques explications et un coup de chapeau, donc on leur doit énormément à ces trois Nobel. Jean-Luc Péloir, merci beaucoup pour nous avoir expliqué donc tous ces détails autour de la lumière bleue des diodes électroluminescentes. Une autre étude dans l'actualité, c'était dans Science cette semaine. Pour la première fois, une étude justement révèle où et quand a commencé la pandémie mondiale de sida. Éric Delaporte, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous en ligne depuis Montpellier. Vous êtes infectiologue et chercheur à l'IRD, directeur du laboratoire UMI 233, qui travaille en particulier, je crois, sur le virus du sida.
Oui, tout à fait, oui.
Racontez-nous comment on a pu remonter à la source de la propagation du virus. C'est quasiment une enquête policière, là, hein, qui s'est passée.
Oui, ça a mis pas mal de temps, effectivement, à se développer. La première étape, ça a été de trouver l'origine du virus. Alors, l'origine du virus, on l'avait trouvé dans les travaux précédents, dans des colonies de grands singes, en particulier les chimpanzés qui vivent dans le sud Cameroun. Mais au sud Cameroun, c'est des régions très isolées, très rurales, en pleine forêt, et ce n'était pas de là que l'épidémie avait été partie. Donc, la question était de savoir comment le virus était sorti de la forêt et pour finalement arriver à Kinshasa. Pourquoi Kinshasa ? Au tout début de l'épidémie, c'était un des endroits où la diffusion était la plus importante, et surtout, d'un point de vue virologique, on s'était aperçu que les souches qui circulaient à Kinshasa étaient extraordinairement diverses. Et on trouvait vraiment la panoplie de toute la diversité possible de par le monde. Et on sait que le virus du sida a cette possibilité de muter naturellement. Quand chez l'homme, il va muter avec un taux très précis de mutation, et ça va donner différents types et sous-types, etc. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en récupérant beaucoup de souches de par le monde, il a été possible de trouver l'ancêtre commun à toutes ces souches. C'est de la biologie moléculaire, c'est de la biomathématique, et ce qu'on appelle l'horloge moléculaire. Et de cette façon, en connaissant le taux de mutation, la nature de cette diversité, on a pu remonter progressivement jusqu'à l'ancêtre commun qui a commencé à se diversifier dans les années 1920. À Kinshasa. Et ça, on en est sûr. Donc, l'épidémie a commencé à diffuser à partir de 1920 depuis Kinshasa, à partir d'un virus qui venait du sud Cameroun, oui. Qui était très ancien.
Alors, comment ? Alors, d'abord, effectivement, cette enquête, vous avez pu la réaliser à la fois avec des données génétiques et puis des données historiques. Hein. C'est ce qui vous
tout
a permis
fait.
Justement de
tout
remonter à la source à Kinshasa. Comment précisément on explique que ces chimpanzés du Cameroun, donc, qui avaient été atteints par le sida, ne soient pas à l'origine géographique du fléau et qu'on soit plutôt à Kinshasa ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux lieux géographiques ?
Eh bien, voilà. Alors, comme vous savez, en Afrique centrale, il y a un contact singe-homme assez important. On consomme de la viande de brousse, on consomme du singe, et des passages d'agents infectieux du singe à l'homme sont possibles lorsqu'on prépare la viande de brousse, un coup de machette, et on se contamine. On est au fin fond de la forêt tropicale. Très probablement, il y a eu des épisodes. Mais ces épisodes de transmission qui ont contaminé les hommes, c'est ce qu'on peut appeler des étincelles. Mais il n'y a pas eu diffusion parce qu'il y avait isolement des populations. Pour qu'il y ait l'incendie, il a fallu que ce virus aille dans un environnement, encore une fois, à Kinshasa. Ce qui a dû se passer, c'est que dans les années 1920, on sait qu'il y a des voies de communication qui n'étaient pas très importantes, mais elles existaient, du sud Cameroun, le fleuve Congo, Kinshasa. Alors, est-ce que c'est un homme infecté ou est-ce que c'est le singe contaminé qui a, c'était du trafic d'ivoire, en fait, à l'époque. Est-ce que ce singe avait été emmené avec les commerçants ou est-ce que c'est un homme qui est arrivé à Kinshasa ? Ça, l'histoire ne le dit pas, mais le passant zéro à l'origine de la diffusion, c'est bien Kinshasa, 1920. Donc, c'est le virus qui est sorti de la forêt. Et puis, également, une donnée très importante également de cette étude, c'est qu'en fait, toutes les souches qui circulent ont un ancêtre commun. Ça veut dire qu'il a suffi d'un seul épisode de transmission singe-homme dans un environnement favorable après pour être à l'origine de la contamination de près de 60 millions de personnes de par le monde.
Oui. Éric Delporte, il y a une question de Scott Atran pour vous.
Oui, de point de vue épidémiologique, qu'explique l'incubation de près de presque 60 ans jusqu'à l'explosion dans les années 80 au niveau mondial ?
Alors, il y a plusieurs facteurs qui vont intervenir. D'abord, l'histoire du virus lui-même, c'est-à-dire que lorsqu'on est contaminé par le virus du sida, on commence à faire des symptômes 5 ans après. Donc ça veut dire que pendant 5 ans, on est infecté et contaminant, mais on ne le sait pas. Et lorsque vont commencer à apparaître des manifestations cliniques, il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde de contaminés parce que c'est la partie visible de l'iceberg de la diffusion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On est à Kinshasa dans les années 1920. Progressivement, apparaissent quelques cas épars de manifestations liées au sida. Mais c'est dans un bruit de fond d'autres endémies tropicales, la tuberculose, la maladie du sommeil. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de reconnaissance de la pathologie. Et quand on regarde les sérums, alors ça c'est vraiment très objectif, les sérums les plus anciennement positifs qui avaient été congelés, on retrouve des gens qui étaient contaminés dans les années 64-65. Et en particulier, par exemple, un malade norvégien qui est mort en Norvège, un marin contaminé dans le golfe du Guinée, donc qui lui a développé le sida rétrospectivement, et son sérum était de 64. Donc vous voyez, ça circulait déjà, mais à bas bruit. Et puis il y a eu l'explosion. Et alors ce qui est aussi tout à fait étonnant, c'est que l'explosion, les premiers cas cliniques, c'est l'Occident. C'est les États-Unis dans la communauté gay nord-américaine. Et c'est seulement dans les années 84 qu'on a reconnu l'épidémie africaine qui était déjà incontrôlable à ce moment-là.
Et il faut dire également, c'est un des pans de l'étude, hein, que Kinshasa a eu une activité très intense à partir de 1920 dans les échanges, hein, précisément. Ça a été vraiment une des plateformes africaines.
Hein. C'était une énorme plateforme, c'était une place coloniale commerçante extraordinairement active avec des migrations, énormément de migrations d'hommes seuls, et donc avec le corollaire malheureusement de ce qu'on appelle pudiquement les femmes libres, c'est-à-dire la prostitution, un taux très élevé de MST, beaucoup d'échanges, et donc n'importe quelle maladie sexuellement transmise à ce moment-là pouvait que diffuser progressivement.
Merci beaucoup Éric Delaporte pour ces explications, donc issues d'une publication Science cette semaine, publication internationale avec des membres chercheurs de l'IRD. Merci à vous.
Je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Scott Attran, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes anthropologue et psychologue. Vous partagez votre temps entre la France et les États-Unis. Vous êtes directeur de recherche au CNRS à l'Institut Jean Nicot à Paris, professeur adjoint à l'Université du Michigan et senior fellow à l'Université d'Oxford. Et vous êtes spécialiste du terrorisme, entre autres. On vous invite à l'occasion de la publication d'un article justement que vous avez écrit en ligne pour la revue Cerveau et Psycho qui s'intitule « État islamique, l'illusion du sublime » dans lequel vous expliquez qui sont ces volontaires qui s'enrôlent dans l'État islamique. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous expliquer comment on travaille scientifiquement sur un tel sujet aujourd'hui ?
Oui, d'abord, ce qui manque dans les travaux, surtout des services de renseignement et dans l'université, c'est qu'il n'y a pas un travail de terrain suivi où il y avait la possibilité de critiquer de ces travaux de terrain. Il y a très, très, très peu.
Et on comprend pourquoi.
Oui, mais on comprend pas pourquoi. Oui, mais...
On imagine la difficulté de travailler avec des terroristes, non ?
Oui, c'est assez... Non, mais bah, franchement, c'est pas... Ça dépend de quel groupe de terroristes. Mais j'ai travaillé avec beaucoup de groupes de terroristes allant des groupes associés à Al-Qaïda jusqu'à le Hezbollah et le Hamas. Mais en général... Tous les gens, même dans les groupes terroristes, sont le même. C'est-à-dire, ils veulent parler de eux, pourquoi ils font ce qu'ils veulent. Ils ont tous les désirs humains presque tout communs. Et puis, on commence à parler avec eux, donner l'empathie, mais pas la sympathie. Et ils commencent à divulguer tout ce qui les motive. Et puis, en plus, sur le terrain, on peut faire des expériences directes avec ces hommes.
C'est-à-dire
Par exemple, il y a deux composants. Des gens qui veulent se joindre au djihad. D'abord, il y a la dévotion à certaines valeurs sacrées et sublimes. Par exemple, un califat, ou ça peut être la révolution communiste, n'importe quoi. Et puis, le deuxième composant, c'est 80 à 80% se vont au djihad ou dans un engagement politique à l'extrême avec les amis. C'est les amis qui les attirent. Donc, ils vont ensemble. Et on peut mesurer l'engagement envers les valeurs et envers les amis. Je vous donne un exemple. Par exemple, on a un ensemble de cinq paires de cirques. Un des cirques représente le moi et l'autre le groupe. Le premier paire, le moi et le groupe, ne se touchent pas. Le deuxième, ils se touchent à peine. Le troisième, à mi-chemin. Le quatrième, plus. Et c'est seulement le cinquième où le moi est entièrement contenu dans le groupe. Et je vois, avec toutes les milices et tous les groupes extrêmes, ils noircissent même avec le crayon, le moi et les groupes. C'est-à-dire, pour nous, il y a plusieurs identités. On peut être français, on peut être américain, on peut être musicien, on peut être n'importe quoi. Mais pour eux, il n'y a qu'un seul groupe. Ils sont fusionnés complètement et ça leur donne un sens d'invisibilité qu'on ne peut pas les détruire et un privilège énorme. Et sur l'Internet, ça peut se passer assez rapidement maintenant.
Alors, quelles sont les questions, vous, qui vous intéressent en tant qu'anthropologue sur ces questions de terrorisme, Scott Attran ?
Justement, l'autre jour, le directeur d'intelligence nationale des États-Unis, James Clapper, a dit qu'on a sous-estimé, par exemple, l'État islamique et on a surestimé la volonté de lutter de l'armée d'Irak. Et le président Obama, le lendemain, il a dit « Moi, je suis d'accord parce que la notion de lutter, la volonté de lutter est un impondérable. Mais au contraire, c'est un impondérable seulement si on a un modèle d'acteur rationnel, cartésien, qui est motivé par les coûts et les conséquences, les récompenses et les risques. Mais ces acteurs ne sont pas motivés par ça. On a même les travaux en neuroimagerie où on montre qu'on agit vers l'extrême, on va vers l'extrême à cause d'une logique d'opportunité morale. On est mené à le faire parce qu'on doit le faire. Ouais. C'est juste sans égard aux coûts et conséquences.
Alors, d'où l'importance justement d'un travail scientifique aussi dans ce contexte très particulier, travail qui est pour l'instant sous-estimé, en tout cas pas assez nombreux, hein, puisque ça permet de mieux comprendre ce qui peut se passer dans la tête précisément à la fois des terroristes de ces pays et puis aussi des jeunes de nos pays comme en France qui ont ce désir d'aller les rejoindre. Qui sont précisément ces jeunes gens que vous avez aussi étudiés et qui sont enrôlés auprès des djihadistes?
Oui, comme j'ai témoigné devant la comité des forces armées du Sénat américain, c'est des gens qui sont, ils n'ont pas une éducation en religion traditionnelle, ils sont nouveau-nés, ils sont dans un état de transition dans leur vie. Ils ont laissé leur famille, leur foyer traditionnel, ils cherchent un nouveau foyer avec des amis.
Mais pourquoi? Pourquoi?
Parce qu'ils veulent un sens de la vie, ils veulent une camaraderie. Et puis ils le trouvent. Ce n'est pas tout le monde qui le trouve. Mais dans cet état des transitions des jeunes, il y a une attraction envers la gloire, l'aventure, l'idéal. On voit en Occident, surtout avec la concentration sur le cerveau, sur l'esprit et sur la raison, que toute cette quête pour la gloire et pour l'aventure et pour le sublime est vue avec cynisme et scepticisme. Mais non, comme Darwin l'a dit, ça, c'est ça qui motive les grands mouvements politiques et qui donne le triomphe de certaines communautés dans la compétition avec des autres.
Vous dites, vous écrivez, ce sont des jeunes qui portent aussi souvent un regard amer sur la société dans laquelle ils vivent. Oui, et c'est ça qui les entraîne aussi.
Ça, c'est
aussi
assez récent. Avant, à peu près, avec Al-Qaïda, c'était la même chose. C'est-à-dire à peu près 60 à 80% des gens se réunissent avec les amis pour se joindre au djihad. Mais le profil a changé. Ça a commencé avec les gens de classe moyenne, bien éduqués. Maintenant, c'est de plus en plus marginalisé. Et on voit, par exemple, en Angleterre ou ici, à l'université, quand on laisse la famille, même en université, on boit beaucoup, on a des liaisons sexuelles et tout ça. Pour des gens dans le milieu musulman, c'est mal vu. Donc, qu'est-ce qui se passe? On organise les séances, les barbecues, les repas avec les amis. On commence à parler de ces choses, pourquoi les parents sont humiliés par les bureaucrates et tout ça. Et puis, ça résonne avec une outrage moral personnel qui trouve un sens beaucoup plus ample et glorieux avec le djihad.
Mais est-ce que c'est la religion, au fond, qui attire principalement ces jeunes ou on est dans un autre mécanisme, au fond, d'attraction?
Ça, c'est une bonne question. La religion donne toute la possibilité du bien et du mal. Ça donne la possibilité de s'accrocher à des valeurs qui ne sont pas vérifiables, ni infirmes, ni peuvent être contradites par la logique ou par les faits. Donc, c'est toujours ouvert à l'interprétation. On peut trouver dans l'interprétation non confirmable des poussées vers des extrêmes, des idéaux transcendantaux, changer le monde. Et même pour ces gens, on peut détruire le monde pour les sauver. Ça, seulement des idées transcendantaux pour le faire, mais la religion, ce n'est qu'une seule moyen de le faire.
Jean-Luc Péloire.
Oui. Dans une psychologie aussi fusionnelle, comment on explique que certains d'entre eux reviennent dans le pays occidental?
Parce que certains de ces gens vont en vacances.
Vous parlez d'un tourisme du djihad, c'est incroyable.
C'est oui.
C'est-à-dire qu'il y a des jeunes gens qui partent pendant leurs vacances scolaires,
ils prennent les photos
en vacances pour éprouver des émotions.
Et là, pour le coup, le fusion est factuel. Voilà. Enfin, ou temporaire, c'est... ou artificiel, je ne sais pas quel mot.
Mais bien sûr. Mais c'est pas pour tous. C'est-à-dire il y a un certain pourcentage qui revient, un certain pourcentage qui revient en France ou qui revient en Angleterre, même aux États-Unis. Mais il y a beaucoup d'autres qui restent. Et plus qu'ils restent, ils attirent leurs amis. Et plus qu'ils sont là plus ils sont fusionnés là et plus ils sont prêts à mourir et à tuer.
Nathalie demande sur franceinter.fr, quelle est la différence entre la façon dont les terroristes du djihad recrutent leurs soldats pour faire la guerre et les soldats des troupes officielles?
Mais il n'y a pas de recrutement au djihad. Le djihad, c'est un attracteur. Bon, j'ai parlé par exemple avec quelqu'un qui voulait faire exploser l'ambassade américaine. Je lui ai demandé pourquoi vous voulez faire ça. Il m'a donné toute l'histoire de la persécution du musulman. J'ai dit, mais toi, pourquoi tu l'as fait? Il a dit qu'il était en train de se promener à boulevard de la République avec sa sœur qui avait une hijab. Elle regardait dans les fenêtres des magasins et puis elle s'est heurtée contre un Français assez âgé qui a craché, disait ça à l'arabe. Alors j'ai dit, moi, j'ai perdu le pile, j'ai dit, moi, je vais joindre le djihad. Mais j'ai dit, il y avait des racismes pendant des siècles ici. Mais les djihad n'existaient pas. C'est un attracteur. Et si on voit, par exemple, le Major Hassan qui a tué tous ces gens aux États-Unis, Aulaki, c'est-à-dire un djihadiste, il a envoyé 24 messages à Aulaki. Aulaki en renvoyait seulement deux en disant, suivant le djihad, mon fils, à votre façon. C'est-à-dire, il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas de lavage de cerveau. C'est des gens qui cherchent eux-mêmes et qui trouvent dans le djihad quelque chose d'attractif.
Et vous dites que le djihad, c'est un employeur égalitaire qui propose les mêmes opportunités à tous.
Mêmes opportunités, mais c'est rapide, c'est glorieux, c'est aventureux. Et ça donne même comme Hitler a dit, tout ce qui pousse des gens à des actions extrêmes, c'est des éruptions, des passions volcaniques chez les gens. Encore, ici en Occident, on pense que la raison, c'est l'esclave. Les passions sont l'esclave de la raison. Mais en réalité, de façon évolutionnaire, c'est le contraire. Mmh. Et bon, le djihad sait comment en profiter de cette vérité.
Scott Atran, la publicité, évidemment, c'est un rôle très important dans l'organisation de ces groupes terroristes. La décapitation, évidemment, des otages en fait partie. Et vous dites bien qu'aujourd'hui, les images de décapitation sont quasiment celles qu'on a éprouvées, en tout cas dans ce qu'on ressent, avec celle du World Trade Center, par exemple. C'est une démonstration du mécanisme et du triomphe au fond de ces groupes.
Oui, bah, l'oxygène.
En semant la terreur.
Les médias, la publicité, c'est l'oxygène du terrorisme, parce que de façon matérielle, ils n'ont presque rien. Pourquoi ils font peur partout dans le monde? C'est-à-dire, je pense, dans aucun moment de l'histoire, aussi peu de gens ont causé aussi grande peur avec aussi peu de moyens et des effectifs. Et c'est la publicité, les médias qui fabrique cette crainte. Mais cette crainte devient réelle. C'est comme la notion de Dieu même. Si tu le crois, ça devient réel. Donc, ça devient la préoccupation principale de nos gouvernements maintenant.
Oui, qui sont bien impuissants, justement, face à ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui serait possible de mettre en place, selon vous, les chances d'action, en tout cas pour les gouvernements internationaux, qui semblent assez dépassés par les événements? Vous proposez quelque chose?
Oui. Bon, la seule chose qui va produire la victoire contre ces mouvements, c'est de réanimer les valeurs de droits humains et de démocratie libérale qui sont fatiguées. Nos jeunes, ils n'ont pas une liaison avec la classe politique.
Vous dites qu'il faut créer des noyaux compassionnels, des noyaux émotifs.
Oui,
c'est ça l'idée.
Par exemple, chez Google ou chez des autres entreprises qui engagent les sentiments et les valeurs et l'aventure, la cherche de la gloire.
Ouais. Il y a des effets pervers aussi chez Google, on va le voir dans un instant. Scott Atran, pour aller plus loin justement, il y a cet article que vous signez pour Cerveau et Psycho qui justement développe cette idée. On peut le lire en ce moment, il est en ligne depuis quelques heures sur le site de Cerveau et Psycho qui lui-même est en ligne sur La Tête au Carré. Ça permettra d'en savoir plus et surtout de faire connaissance aussi avec votre discipline, l'anthropologie, la psychologie, dans ce cadre très particulier et encore marginal du terrorisme. Merci beaucoup d'être passé dans La Tête au Carré, mais vous restez avec nous, il y a d'autres sujets, on parlera justement de Google dans un instant.
Dans ta vie, tu pâlis, mon ami. fait passer le soleil dans ta vie et tous les joyeux bordels. Il n'y a plus rien qui t'excite dans la vie. Tu cravates tes envies, tes délires, mais tu ne peux pas oublier, même de nuit, quand tu danses et quand tu jouis. Mais où de rire qui fatalement surgit. La rue qui monte au ciel, ces escaliers qui te tenaient, le tournis des ailes.
Fantaisie, la voix de Daphné sur France Inter.
La tête au carré.
On est arrivé.
Le club.
Ah oui, déjà.
Avec Mathieu Vidard.
On n'a pas vu le temps passer, dis donc.
Sur France Inter.
Et avec nos invités, Franck Cazenave pour un livre Stop Google, relever les nouveaux défis du géant du web chez Pearson Édition. Ça, on va l'offrir à Scott Atran hein, quand il va repartir aux États-Unis, il pourra le lire dans l'avion pour peut-être découvrir. Il y a aussi une belle enquête anthropologique à faire hein, sur Google. Franck Cazenave, vous êtes docteur en sciences de gestion, directeur de marketing et innovation chez Bosch. Et alors que le salon de l'auto bat son plein à Paris, vous publiez donc ce livre. Google, bien sûr, ce moteur de recherche qu'on ne présente plus, que vous appelez aussi le grand aspirateur à données personnelles. C'est d'ailleurs l'enjeu principal de cette marque, au fond. Hein.
Oui, de cette marque et puis des autres marques qui constituent la galaxie Google. Parce que avant de parler de la voiture dans le livre, j'explique comment Google a créé un écosystème de services, apparemment gratuit, mais en fait qui se paie en accédant à notre vie privée, en connaissant nos goûts et en monétisant ces informations auprès d'annonceurs pour de la publicité ciblée.
Tout en nous faisant croire que ces services sont gratuits.
Tout à fait.
Parce que Google est très malin, en fait. Hein.
C'est ce qui me fait dire que si c'est gratuit, c'est vous le produit.
Ouais. Hein. Pourquoi le secteur de l'automobile intéresse Google aujourd'hui? C'est le cœur de ce livre.
Oui, alors, pour deux raisons fondamentales. La première, c'est qu'on passe tous du temps dans la voiture. Donc ce temps pourrait servir plutôt qu'à conduire, à consommer des services de Google. Et puis aussi, la voiture permet d'aller d'un point A à un point B. Donc en ayant une voiture qui est connectée à Internet, mais aussi en mettant Google Maps dans la voiture, ça permettrait à Google de guider des consommateurs vers des points, vers des magasins, vers des loisirs, vers des restaurants pour lesquels ils seraient rémunérés.
Parce que on imagine, on est dans notre voiture. Alors, qu'est-ce qui se passe justement avec les annonceurs qui nous entourent lorsqu'on est sur la route et qu'on voit tous ces panneaux?
Mais ça serait même plus subtil que ça. C'est-à-dire que avec la reconnaissance vocale de Android Auto, qui est la plateforme Android étendue à l'automobile, vous dites « je veux aller dans un restaurant français ce soir à 20h » et vous aurez des propositions. Et comme sur le moteur de recherche, ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on fait une recherche sur Google, on ne fait pas une recherche sur l'Internet libre et parfait. Google, sur le côté, nous met des liens sponsorisés, des publicités. Et puis, les premiers liens qu'il nous met, en général, des entreprises paient par rapport à des mots-clés. Et donc, le classement que l'on a est un classement, je dirais, auquel Google est intéressé en faisant payer des entreprises et par rapport à ces mots-clés. Donc là, ça fonctionnerait exactement de la même manière. Si vous avez un moteur de recherche qui est dans votre voiture et vous demandez d'aller quelque part, Et vous avez des propositions qui sont rémunérées à Google.
Voilà, donc notre voiture devient une mine d'informations, une mine d'argent.
Oui, évidemment, une mine d'informations sur nous. Et puis aussi, la voiture, c'est des informations en elle-même. Donc, ça permet aussi d'avoir une fusion entre les informations des individus de la voiture pour aussi proposer des nouveaux services.
Scott Atran.
Google, c'est excitant, c'est motivant. Et c'est innovateur.
C'est un Américain qui nous le dit.
Mais je pose la question que Orwell a posée dans son revue de Mein Kampf en 1940. Est-ce que notre idéal, ou l'idéal de Google, qui engage notre gens, c'est seulement le confort, la sécurité, l'évitement de la douleur et la bonne vie? Ou est-ce que ça peut être autre chose, c'est-à-dire les choses qui motivent...
Oui. Vous avez parlé d'Orwell, vous parliez de Hitler.
De George Orwell dans sa revue de Hitler. Dans
sa revue. Au sujet de Mein Kampf.
Pourquoi le capitalisme, le socialisme qu'a offert à l'Occident la bonne vie n'a pas réussi à motiver les jeunes comme les mouvements extrêmes comme le nazisme, le stalinisme ou le fascisme, où Hitler a motivé avec le danger, l'aventure, le glorieux, et toute une nation se jeta à ses pieds. Google motive les gens, mais est-ce que ça peut remplacer la motivation de ces gens, par exemple, qui vont vers le djihad de plus en plus, ou qui cherchent une ouverture glorieuse, pas seulement politique, culturelle et sociale, au-delà du confort, au-delà de la sécurité, une aventure intellectuelle et même politique?
C'est difficile de répondre à une telle question et aussi à un tel spécialiste. Moi, surtout, je vois plutôt la motivation des salariés de Google. Donc peut-être que pour les salariés, c'est un idéal, une entreprise qui a aussi des valeurs, des codes, qui permet de motiver ses salariés. Après, par rapport aux individus, il n'y a peut-être pas forcément des valeurs. Ou en tout cas, ce que les individus pensent, c'est être libre, pouvoir accéder librement à des services. Mais il y a une contrepartie et souvent on l'oublie, c'est l'abandon de sa vie privée.
De son libre arbitre
de
aussi.
Son libre arbitre.
Parce qu'on voit bien qu'on est télécommandé quasiment.
Mais à ce propos, j'en parle dans le livre, pour les 500 millions d'utilisateurs de Gmail, dans les 30 pages de conditions que personne ne lit en général,
sûr, jamais.
En appuyant sur accéder et accepter, ce que nous dit Google, c'est qu'ils scannent nos emails pour comprendre quels sont nos goûts, qu'est-ce qui nous intéresse.
Ils font de l'anthropologie, en fait, c'est ça.
C'est
à grande échelle. Et ils monnaient en plus.
Oui, mais avec notre acceptation. C'est un peu... Enfin, je prendrai cet exemple, c'est ce que fait Google avec Gmail. Est-ce qu'on donnerait l'autorisation à notre facteur avant de nous livrer notre courrier dans notre boîte à lettres,
de l'ouvrir,
de le photocopier, de le conserver et de l'utiliser...
De le monnayer en plus.
Voilà, et de le monnayer auprès d'annonceurs.
Alors, Jean-Luc Péloir.
La vie d'un novice, c'est vrai, mais en même temps, on a un certain nombre de services, donc on les accepte. Mais moi, ça me fait peur, c'est quand j'entends le discours des dirigeants de Google. Parce que ça, c'est juste une petite brique dans un projet qui est transhumaniste, qui est l'humain augmenté avec intelligence artificielle, l'immortalité, enfin des choses qui sont effrayantes. Et pour le coup, ça m'effraie au moins autant que le djihad.
Alors, justement, enfin sur pas tout à fait, je parle pas du transhumanisme parce que c'est un sujet qui est très spécifique, mais il y a un chapitre qui s'appelle Google guide votre quotidien. Et en fait, d'expliquer que du matin jusqu'au soir, chez vous à la maison, dans votre travail, avec les outils, le smartphone, avec les tablettes, avec la voiture, en fait, Google souhaite nous guider dans nos activités. Ça va devenir un peu un compagnon dans tous les instants de notre vie. Mais ce compagnon, il est intéressé. C'est qu'il se rémunère grâce à la connaissance qu'il a de nous. Oui. Parce que ce qu'on oublie aussi sur la voiture comme le smartphone, c'est que vous avez une puce GPS dans votre smartphone ou dans la voiture. Donc, ce qui est beaucoup plus fort que l'ordinateur, c'est que Google peut savoir ce que vous consultez comme application, comme site web, où ça, à quel moment. Et donc, ça permet de contextualiser votre utilisation. Et la voiture comme le smartphone, voilà, permettre de contextualiser. Ça, c'est vraiment important. C'est une nouvelle étape dans la conquête de nos vies.
Donc la mobilité, l'automobile, ça c'est un secteur vraiment en ligne de mire hein, pour Google. Et la robomobile, parce qu'il y a toutes ces voitures qui vont rouler sans nous aussi, hein, qui vont nous emmener, on pourra bouquiner pendant ce temps-là ou se mettre du vernis sur les doigts de pied.
Tout à fait, c'est un nouveau terme en fait. C'est la fusion pour la voiture autonome, celle qui se conduit toute seule. Je pense qu'on ne pourra plus l'appeler automobile. Hein. Ça sera une robomobile puisqu'elle se conduira toute seule. Donc Google investit massivement, d'autres constructeurs, des équipementiers investissent aussi pour ces technologies qui permettent de rendre la voiture autonome. Oui. Donc ça permettra effectivement de retrouver du temps. Et aussi, et j'en parle dans le livre, il y a un enjeu sociétal que souvent on oublie. Il y a les accidents de la route avec les tués, ça c'est d'une part, mais il y a aussi deux autres défis sociétaux. Un, c'est les personnes qui souffrent d'un handicap. C'est à peu près 15% de la population mondiale. Et le taux d'emploi des personnes qui ont un handicap est 10% inférieur à des personnes sans handicap. Et la première problématique...
C'est la mobilité, justement.
Voilà, c'est la mobilité. Donc la voiture qui se conduirait toute seule donne de la mobilité. Et puis après, il y a aussi le vieillissement de la population. En France, selon l'INSEE, 22% de la population a plus de 60 ans. En 2050, ça sera 31%. Donc comment on fait pour que les gens puissent rester chez eux, mais avoir aussi de la mobilité, se déplacer. Et la voiture, la robomobile, la voiture autonome, elle pourrait amener tous ces services de mobilité à des populations qui, aujourd'hui, ne peuvent pas forcément conduire.
Scott,
bah, j'ai travaillé un peu avec les forces aériennes. Il y avait la notion de robot-avion, par exemple, surtout dans le combat, où il y a des millisecondes de décision où tout peut changer. Et toute la technologie existait pour que ça marche bien. Mais les pilotes ne voulaient pas abandonner leur sens de contrôle sur leur propre destin. Est-ce que ça ne sera pas un problème pour les conducteurs même ?
Alors, il y a des études qui existent par rapport au comportement des conducteurs. Déjà, il y a le limiteur de vitesse ou le régulateur de vitesse. Quand vous enclenchez un limiteur de vitesse, ça, par exemple, sur autoroute, vous dites « je veux pas dépasser 130 ». Si vous appuyez sur l'accélérateur, vous n'allez pas au-dessus de 130. Par contre, le régulateur de vitesse, vous dites « je veux rester à 130 » et c'est la voiture qui, elle, autorégule en freinant, en accélérant. Donc, il y a à peu près 50% des gens qui utilisent le limiteur de vitesse et 50% le régulateur. Donc, ça veut dire qui délègue déjà à la voiture la régulation de la vitesse. Donc, tout le monde n'utilisera pas forcément spontanément la robomobile, mais vu que 50% déjà avec le régulateur de vitesse des personnes délèguent à la voiture, on peut penser qu'une part importante de la population sera intéressée à la robomobile.
Et c'est donc tout le monde de l'automobile qui va être complètement bouleversé, et les constructeurs en particulier, parce que Google arrive avec sa force de frappe, hein.
Oui, bouleversé surtout dans le rapport avec les consommateurs. Et surtout, pour Google, la voiture n'est pas une finalité, c'est un moyen.
Mais il faut que les constructeurs qui décideront de ne pas faire de partenariat avec Google, ben, les reins très solides, hein, c'est ce que vous montrez aussi. Hein.
Parce que Google préempte de nombreuses technologies en rachetant des entreprises, en investissant dans des start-up, et donc ils préemptent des brevets et de la propriété intellectuelle qui sera nécessaire pour faire les prochaines étapes de la voiture autonome.
Est-ce que ce livre va être traduit en anglais, Franck Cazenave ?
Eh ben c'est en discussion.
Ce serait intéressant. Stop voilà. Google, relever les nouveaux défis du géant du web chez Pearson Édition. Ce livre vient de paraître et c'était l'occasion d'en parler au moment du Salon de l'Auto. Voilà, Scott Atran s'en empare déjà. Voilà, faudra juste enlever les petites notes qui est à l'intérieur, mais on vous l'offre. Christine Simeone, bonjour.
Oui, bonjour.
On termine ce club des têtes au carré avec une exposition à Vaux en Velin au Planétarium. Entre mondes, c'est un travail d'artiste à partir d'une expérience scientifique.
Oui, souvenez-vous, Mathieu, nous avions suivi cette aventure art science l'année dernière qui s'appelait Rayonnement cosmique à tous les étages. Une dizaine de familles de la région de Vaux en Velin ont pendant plusieurs mois appris à détecter la radioactivité terrestre et les rayons cosmique, en fait c'est la radioactivité spatiale si je puis dire, et ils l'ont fait avec un dispositif que Thierry Stolarzik du CEA de Saclay avait mis au point pour eux, à savoir, souvenez-vous, oui, des bocaux en verre avec des petites lames métalliques à l'intérieur. Et l'important dans cette histoire, c'était de fournir à une dizaine de familles un accompagnement sur mesure pour apprendre une démarche scientifique et puis d'apprendre à rêver un peu aussi. Tout cela sous l'œil d'un artiste, Laurent Mulot, qui propose donc aujourd'hui cette installation avec photos, objets et vidéos autour de cette expérience. Écoutez-le.
Ce qui m'a intéressé, c'est tout d'abord la rencontre avec ces gens et puis leur application, leur sérieux justement à s'investir et à se mettre dans cette expérience, et comment ils ont peu à peu construit un lien, alors là, avec un rayonnement invisible, mais détectable, puisqu'ils l'ont eux-mêmes détecté avec leur petit électroscope là, fait maison. Comment ils ont construit ce lien avec l'infiniment grand, l'infiniment lointain, et comment une certaine familiarité, finalement, s'est opérée chez eux avec des données astrophysiques complexes, bien que vulgarisées par Thierry Solarzik, mais quand même complexes. Lointaine, peu palpable. Et comment c'est le geste d'appropriation qui m'a intéressé.
Et aujourd'hui, ces personnes parlent de mesure des rayons cosmiques avec méthode. Et de surcroît, cela a aussi ouvert quelques portes à leur imagination. C'est ce que met en relief d'ailleurs Laurent Mulot dans son installation, dans son exposition, puisqu'il les a observés, écoutés. Alors, vous écoutez bien ce que je vais vous faire entendre, c'est la voix de Gadri Diallo, qui est l'un des participants. Laurent Mulot a mixé sa voix avec le bruit émis par une chambre à brouillard qui capte les rayons cosmiques. Écoutez Gadri Diallo parler des rayonnements cosmiques.
Il y a quelque chose d'un peu sorcier dans ce que nous vivons. Premièrement, ces ondes. Ces ondes qui nous viennent des confins de l'univers, tu vois. Et puis, qui nous traversent. Qui, tu sais, c'est bizarre.
C'est bizarre. Voilà, c'est à voir au planétarium de Vaux-en-Velin, en photo, en vidéo. Et c'est sur le site de France Inter, dans la page de La Tête au Carré. Mathieu, pour vous, je vous ai fait l'expo en 4 minutes et un concentré de photos.
Oh ben ça, c'est gentil. Sympa. Mais je préférerais aller à Vaux-en-Velin quand
mais
même.
Allez-y, donc c'est très beau. Alors, je vous conseille franchement la visite au planétarium de Vaux-en-Velin, ses explications sur l'espace et l'art.
Et Jean-Luc Péloir qui nous précisait que la chambre à brouillard avait elle aussi valu un prix Nobel.
Absolument, à Chartres, il y a quelques dizaines d'années.
Merci à tous. En tout cas, passez un très bon week-end. Almost Like the Blues avec la voix de Leonard Cohen sur France Inter. Rosa Parks, La dignité d'une nation, ce sera dans Affaires sensibles avec Fabrice Drouel dans quelques minutes après les infos. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de podcaster les têtes au carré que vous avez manquées. Il suffit de vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez réécouter tranquillement toutes les émissions, le podcast sur franceinter.fr.